Le récit du baptême de Jésus au Jourdain s'achève par une parole de Dieu, une parole qui nous invite à réfléchir, à penser à ces notions un peu difficiles, et comme je reviens de vacances et que j'ai vu tous mes enfants, à peu près, j'étais très travaillé par tout ça. Les notions de filiation et de parentalité. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je prends plaisir. Dans la Bible, nous lisons souvent, nous chantons dans nos cultes que nous sommes enfants de Dieu. Il y avait autrefois un cantique, les anciens s'en souviennent, un cantique enjoué de « J'aime l'Éternel » qu'on chantait à tue-tête. J'étais jeune, moi. « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. » Vous vous souvenez, hein ? Bon, ben voilà. Je ne suis pas tout seul. Et à bien y réfléchir, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire, être enfant de Dieu ? Parce que pour traduire cela, pour le penser, eh bien, nous puisons souvent inconsciemment dans notre expérience humaine, celle de la filiation, celle de la conjugalité, celle de la parentalité, telle que nous la vivons, pour le meilleur, oui, ou le pire, selon les histoires, selon les moments de nos histoires. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais les temps qui sont les nôtres bousculent sur leur base les modèles classiques de la famille, du couple, de la filiation. Ceux de ma génération ont un peu de mal à suivre le mouvement actuel. Mais je veux ajouter aussi que si nous voulons être une église de l'accueil, de l'écoute, de l'accompagnement spirituel de tous, alors nous allons devoir faire l'effort d'un déplacement et d'une réflexion. Bref, je ferme là la parenthèse. Alors ce matin, vous avez sous la main un pasteur et vous vous dites, il va nous dire, lui, ce que la Bible pense de la famille, la vraie, la bonne. Il va nous remettre les pendules à l'heure et nous comprendrons alors très bien ce qu'être enfant de Dieu signifie. On commence à se connaître, hein ? Je risque de vous décevoir, ce ne sera pas mon angle d'attaque. Et la raison est toute simple. Je crois que le lecteur honnête de la Bible se rend vite compte que la Bible ne tient pas un discours unique, ne présente pas un modèle idéal de la filiation, du couple et de la famille. La Bible raconte la vie, nos vies, telles qu'elles sont dans leur réalité, dans leur complexité, dans ce qu'elles ont de beau et de laid, voire de sordide. Quand elle raconte, la Bible, la conjugalité, quand elle entre dans des histoires de relations amoureuses, dans des histoires de famille, de fratrie, eh bien, la Bible parle d'amour, bien sûr, mais elle parle aussi de mariage forcé, de violence conjugale, d'adultère, d'inceste, de stérilité, d'adoption, de GPA, hein, gestation pour autrui, l'histoire d'Agar, Abraham, Sarah. Le bonheur et le malheur tissent ensemble dans la Bible de manière inextricable le récit de la famille. Ce qui n'empêche pas Dieu de bénir le couple et de cheminer toujours et encore, même au cœur des histoires les plus tordues, mais aussi des histoires les plus belles, de rester là, en présence. Ceci dit, la réalité aussi complexe qu'elle soit, la réalité de la famille, ne réduit pas pour autant la question de la famille à une chose sans valeur, une chose anecdotique, banale, pas du tout. C'est une institution d'une valeur majeure, très présente dans le message biblique. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si elle est inscrite, la loi de la famille, juste au pied du podium. Quatrième commandement, quand même. Avec le fameux « tu respecteras ton père et ta mère ». Mais il faut reconnaître qu'une fois le commandement de la loi posé, au lieu de nous raconter des histoires de famille qui filent bien droit, de respect, d'amour, la Bible nous raconte des histoires incroyablement compliquées, scabreuses, comme pour nous mettre en garde par rapport à quelque chose, pour nous dire quelque chose, pour nous dire peut-être que, j'en suis convaincu, que la famille ne sera jamais le lieu de la pleine réalisation de soi et de notre bonheur. Pour Jésus, qui le dira de manière très claire, le bonheur, Jésus n'appelle pas tellement ça le bonheur, il parle du règne de Dieu. Le règne de Dieu n'est pas dans la famille, il est ailleurs. C'est lui, d'ailleurs, Jésus, qui va porter un coup fatal au mythe de la famille comme lieu du bonheur absolu. Vous vous souvenez de cette scène, quand il prêche l'évangile, sa mère, ses frères, ses sœurs cherchent à se saisir de lui, Marc précise, en pensant qu'il est devenu fou. Joyeuse ambiance, quand même, dans la famille là, de Jésus. Et il répondra, « Ma mère, mes frères, mais qui est-ce ? Mon frère, ma sœur, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. » C'est dans l'évangile de Marc, cette fois. Au chapitre 3, justement. Et Jésus aura aussi cette parole qui vient casser quelque chose dans le mythe de la famille idéale. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui me préfère, père ou mère, n'est pas digne de moi. Et celui qui me préfère, fils ou fille, n'est pas digne de moi. Matthieu 10. Alors, je veux revenir après ce détour par les paroles de Jésus à la question de Dieu comme père. Dire que Dieu est Père et que nous sommes enfants de Dieu, il faut l'entendre d'abord comme une métaphore, une image. C'est comme quand nous chantons que Dieu est notre rocher. Ça ne fait pas pour autant de nous des adorateurs des cailloux. D'accord. Alors quand nous disons que Dieu est Père et que nous sommes ses enfants, à la lumière des Écritures, qu'affirmons-nous ? Que disons-nous ? Eh bien, nous disons cinq choses, toutes simples, et j'aimerais, au fil de ce que je vais dire, vous les présenter, cinq choses toutes simples, et je vais les énumérer brièvement. D'abord, dire que Dieu est Père pour nous, et notre Père, et que nous sommes ses enfants, c'est, premièrement, parler de relation. Ça veut dire que Dieu n'est pas un concept théologique ou rationnel ou spirituel. Il n'est pas non plus, ça c'est plus tendance, il n'est pas non plus une énergie. Dieu ne se rencontre, il ne se manifeste que dans la relation personnelle. Et ce qui rend existant un père, vous savez ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qui rend existant un père ? Ben, c'est son enfant. On ne le dit pas souvent, ça. Hein ? Mais tout autant, c'est tout autant le fils et la fille qui font le père et la mère. Tout autant que les parents ne font leurs enfants. Et d'ailleurs, entendez au Jourdain, Dieu ne dit pas « Je suis le père de Jésus ». Non, il dit « Celui-ci est mon fils, bien-aimé ». Ce n'est pas exactement la même chose. Vous sentez la différence ? Dieu ne se présente pas à ce moment-là comme le Dieu autosuffisant, père de toute éternité, comme une sorte de toute puissance paternelle, totalement indépendante finalement. Non, il se présente comme une personne en relation, comme un être en manque de l'autre, un être en dépendance, un être qui a soif de présence, de sa présence à l'autre. Un père qui a besoin de son enfant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui, en lui, je prends plaisir. Ça, c'est la première chose, c'est la relation qui fait la paternité. La deuxième chose qui est induite par notre statut d'enfant de Dieu, c'est que, c'est une évidence, mais je voudrais insister là-dessus, nous sommes précédés. Un enfant n'est jamais à l'origine de sa propre histoire. Au Jourdain, on voit descendre l'Esprit sur Jésus comme pour dire symboliquement que le Fils n'est pas sa propre origine, qu'il n'est pas autosuffisant. Comme nous ne sommes pas nous-mêmes notre propre origine. Il n'y a là que des évidences, mais notre époque nie ces évidences. Elle nous invite à construire nos vies, notre époque, comme si nous étions notre propre créateur et notre propre fin. Elle nous apprend, notre époque, à nous situer au centre de notre propre histoire, de notre projet de vie. Nous avons tellement besoin d'être ce que nous décidons d'être, d'être le point zéro, les alphas et les omégas de nos histoires. Eh bien, dire que Dieu est notre Père, c'est dire qu'il nous précède, que nous recevons de lui notre vie et que notre marche dans cette vie ne se fera pas sans lui. Mais accueillir cette vie comme un don de quelqu'un qui nous précède, ça ne veut pas dire que nous sommes mis sur des rails et que voilà, ça va aller tout seul, hein, et que tout est écrit d'avance. Bien au contraire, c'est découvrir dans ce don de la vie donné par quelqu'un qui nous précède, découvrir, la troisième chose à retenir, découvrir une liberté infinie. La relation au Père qui nous précède nous rend libres. La scène qu'on vient de lire au Jourdain est située au tout début de l'évangile de Matthieu. C'est la première apparition de Jésus en public. Ensuite, à partir de là, Jésus va se mettre en chemin, il va tracer sa route, comme on dit, il va vivre sa vie, il va faire des choix, suivre ses choix. On ne le sent pas téléguidé sur pilote automatique. Il fait des rencontres, il se passe des choses. Les mots de Matthieu sont très importants dans le récit de baptême. Il n'est pas dit que Jésus sortit de l'eau, comme la plupart des traductions le traduisent. Il est dit dans le grec qu'il monta de l'eau. Il monta de l'eau. Il n'y a pas eu de descente avant, mais il y a une montée. Cette montée, je la ressens comme le oui de Jésus à la vie. C'est la prise en main de sa propre destinée, cette montée de l'eau. C'est l'accession symbolique à ce que j'appellerais un statut d'autorité, que chaque personne humaine détient vis-à-vis de sa propre existence. Notre vie, votre vie, est donnée pour une montée, pas pour une descente aux enfers. Nous sommes invités par celui qui fait don de la vie à tracer librement notre chemin, à monter vers les sommets de la vie, en traversant quelquefois des vallées plus sombres, bien sûr. Voilà. Alors, après avoir parlé de l'importance de la relation, première chose simple, après avoir pris conscience que nous sommes précédés, comme enfants du Père, que cette origine est libératrice, il y a une quatrième chose que j'aimerais évoquer, c'est le rôle joué par la parole. Dieu devient Père par sa parole. Dieu est un Dieu qui parle. Il n'est pas cette présence universelle, comme on le conçoit souvent dans les religions, qui est aussi évidente qu'indiscutable. Il n'est pas un Dieu qui sature tout de sa présence, de sa puissance, sorte de Dieu envahissant, voyez, écrasant. Non, il est une voix qui se rend proche et qui parle, qui entre en relation, souvent qui appelle et qui envoie, qui partage dans l'intimité aussi. Il est ce père aussi, ça c'est rare hein, de la part des pères, c'est un père qui sait se taire, quelquefois, pour que la parole des fils, des filles, de son fils, puisse monter et se faire entendre. Entre parole et silence, entre visite et absence, le Dieu de la Bible est Père d'une façon subtile et admirable. Une façon qui nous apprend à devenir enfants et d'une manière tout à fait nouvelle et admirable aussi. La langue française est merveilleuse. En français, le mot « enfant » revêt deux significations. Il désigne la période entre 3 et 13 ans. Avant, on est des bébés, après, autre chose. Arrive l'âge ingrat de l'adolescence. Les pauvres, hein. On dit toujours ça de l'âge ingrat. Et puis la naissance de l'adulte, où on demande justement de cesser de faire l'enfant hein, à l'adulte, même si ça lui arrive encore. Mais le mot « enfant » désigne aussi, c'est le deuxième sens, et je trouve ça très beau, désigne ce lien éternel qui attache une personne à sa lignée, à ses parents, tout au long de notre vie, et même après notre vie. Nous sommes et nous restons les enfants de nos parents. Voilà ce que les Écritures disent quand elles présentent Dieu comme Père. Elles parlent de relations, d'histoire, de liberté et de parole. Alors, très joli cet exposé, hein. Mais nous, dans cette histoire de baptême au Jourdain, on fait quoi ? Spectateur ? Je ne crois pas que le récit est donné pour ça. Cette relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils au Jourdain, c'est très beau. Très mystérieux aussi. Mais en quoi ça me concerne, moi ? Nous confessons Jésus comme le Fils unique de Dieu. Mais alors, en quoi cette histoire de paternité et de filiation divine qui les concerne, me concerne ? S'il n'y a qu'un fils, comment puis-je devenir moi, fils, fille ? C'est la cinquième et dernière chose que j'aimerais dire. Jésus appelle Dieu son Père et il nous invite à l'appeler notre Père. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, je crois. Il dit, toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret, en disant quoi ? En disant notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. C'est là, dans cette profonde intimité, dans ce sanctuaire intérieur qu'est la prière, que Jésus m'invite à dire non pas mon Père, mais notre Père. Et en disant notre Père, j'invite Jésus, le Fils unique, mon frère, à entrer dans l'intimité de ma relation avec notre Père. Comme si, à ce moment-là, chacun devenait fille, fils unique de Dieu. Le Dieu vivant, Jésus nous le fait découvrir comme un Père. Je le disais tout à l'heure, pas comme un concept, pas comme une divinité obscure, menaçante, qui tire les ficelles de l'histoire de là-haut, quelque part, ni même comme un Dieu qui énonce ses conditions pour que tu deviennes fille et tu deviennes fils. Non. Il est le Dieu de la relation qui s'inscrit dans une histoire qui est source de liberté, qui nous parle. En Jésus, nous sommes appelés, oui, nous sommes reconnus par le Père, enfant bien-aimé, enfant unique. En nous, en toi, ma sœur, en toi, mon frère, Dieu, notre Père, prend plaisir et place toute son affection. Tu es aimé. Amen.